remercie pour vos explications, pour vos arguments qui ont été particulièrement intéressants. Pour moi, j'ai une question à vous poser, parce qu'à un moment donné, vous avez parlé de l'argent que l'Union européenne a à sa disposition pour les Roms. Et vous avez même dit, si j'ai bien compris, que Cécile Duflot, qui est ministre du Logement, a aussi de l'argent pour loger des familles roms qui désirent venir ici et voir leur avenir. Bon, comment se fait-il que cet argent reste souvent bloqué, ne sert à rien? Bon, je dirais, est-ce que ça, à la limite, est-ce que ça pourrait servir aussi ici? Voilà, est-ce que... Bon, parce que j'ai été une fois au Conseil de l'Europe, où il y avait des élus qui, justement, qui s'occupaient des Roms. Et alors, ils avaient dit, il y en a quelques-uns, dont l'un du Nord, je ne sais pas si c'est la Lille ou Dunkerque, je ne me souviens plus, qui disaient qu'ils avaient eu pas mal d'argent pour de l'Union européenne, dont maintenant les collectivités locales avaient dû mettre, évidemment, un peu de pour que ça se fasse, mais disons, les dossiers avaient été montés. Il semble que c'est très, très difficile de monter ces dossiers.
Ben oui, monsieur, j'ai raconté. C'est ça, l'histoire. Et encore, en Roumanie, les fonds européens, ils sont utilisés à 20%, je crois, le taux d'utilisation des fonds européens, parce qu'ils sont effectivement, comme ces dossiers sont compliqués à monter, ils n'ont pas les infrastructures, les personnes, les experts, si je puis dire. Bon, c'est pas la seule raison. Mais c'est aussi pour une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas recours aux fonds européens. Ils n'y arrivent pas. Ils ont des fonds dédiés. Ils n'y arrivent pas. Ils ne peuvent pas monter les dossiers.
C'est quand même un problème. Je veux dire, c'est pas de part de l'Union européenne.
Ça paraît gros.
Alors, la question, pourquoi pas des permis à points comme au Canada? Un peu. Hein, alors, deux choses. On sait que... à l'appui, le niveau moyen de qualification des personnes migrantes arrivant sur notre sol est à peu près équivalent au niveau moyen de qualification de la population française. Et ça, ça recoupe, ça c'est une étude des gens sur place, mais ça recoupe d'autres analyses tout à fait qui disent que précisément pour migrer, il faut, c'est pas les plus pauvres qui migrent, pour migrer, il faut un capital. Un capital culturel, de qualification, d'éducation, un capital fric aussi. Il faut payer les passeurs, ça coûte cher, de plus en plus cher, parce que plus les frontières sont difficiles à passer, plus les passeurs prennent cher, hein, on subventionne les passeurs. Et donc, en fait, les gens qui passent sont plutôt bien qualifiés, sauf que le parcours du combattant, le parcours de précarisation et le parcours de non-droit les amènent du coup à occuper des fonctions qui sont largement en deçà de leur qualification. Et ça aussi, les études sont intraitables. Et d'ailleurs, London School of Economics avait fait une étude sur les effets qu'aurait la régularisation des personnes en situation non régulière en Grande-Bretagne et avait prouvé que le premier effet de la régularisation, c'était que les personnes pouvaient prétendre à un emploi qui correspondait enfin à leur diplôme. Hein? Et donc nous, on est dans cette situation-là. Ce qui fait que les personnes occupent des emplois qui sont plutôt sous-qualifiés et qui sont plutôt complémentaires avec les emplois occupés par les nationaux. Et le résultat de cette affaire, c'est que, vous avez raison, ils sont payés moins cher, donc on peut penser que du coup les prix sont tirés vers le bas, sauf que les boulots qu'ils occupent sont dans des secteurs, bon, ils ne sont pas, on les conseille lesquels, hein, le bâtiment, les services, la restauration, le textile, etc. Ce qui fait que, en fait, ça augmente le pouvoir d'achat des nationaux, parce qu'ils peuvent accéder à des biens et des services fournis par une main-d'œuvre moins chère, à un prix moins important. Je ne sais plus qui. Il y a une étude qui est super là-dessus et qui démontre ça. Donc la complémentarité, plus que la concurrence. Le permis à points, c'est une des manières possibles. Elle a aussi des défauts, mais c'est une des manières possibles d'organiser la mobilité. Donc, mais c'est un instrument. Hein. Donc oui, ça peut être effectivement un instrument pertinent. Sauf que on a aussi la contre-expérience d'appel d'offres en quelque sorte à la main d'œuvre internationale sur des créneaux ciblés et déficitaires du marché de l'emploi dans les pays nationaux, et ça ne fonctionne pas du tout. C'est-à-dire que la conception par les pays souvent européens ou occidentaux, on va dire que le reste de la planète serait une vaste zone de ressources humaines dans laquelle ils pourraient aller piocher les manques qu'ils ont sur leur marché, finalement ça ne marche pas. C'est plus efficace de permettre aux familles et aux personnes migrantes de déployer toute leur capacité d'innovation, de travail, d'intégration, en levant les obstacles qui sont formés autour de tout ça. La deuxième question, elle concerne en fait un sujet qui est tout à fait d'actualité, puisque les ministres ont trouvé un accord hier sur la directive détachement. La directive détachement qui permet donc à des salariés d'une entreprise, je me situe en France, donc à des salariés d'une entreprise qui n'a pas son siège en France, qui a son siège en Europe, de faire venir et de détacher auprès d'entreprises ou dans des secteurs ciblés en France leurs travailleurs pour un temps ciblé avec des conditions de travail qui sont celles de l'état d'accueil, donc de la France. Mais ça, c'est la directive. Hein. Alors après, comme le tout droit du travail, hein, comme la directive, on a de moins en moins d'inspection du travail. Là, le gouvernement a décidé de renforcer les moyens d'inspection du travail, et c'est très bien. Mais il y a une baisse drastique, et donc, bon, il faut aussi des contrôles pour faire un bon service d'accueil. Mais ce que dit la directive détachement, c'est que les personnes détachées, elles sont payées, et elles ont les conditions de travail, et elles répondent au code du travail du pays dans lequel elles exercent. Donc la France se met dans cette position-là. Là où se fait la concurrence, c'est sur la protection sociale. Parce que par contre, les personnes détachées, elles ont la protection sociale de leur pays d'origine, du pays où leur entreprise a leur siège. Hein. Et donc là, ce peuple peut se jouer une concurrence. Le problème, c'est que cette directive détachement, elle est complètement détournée. C'est-à-dire que les gens créent des boîtes bidons pour juste profiter de l'obèse du différentiel sur les protections sociales. Et c'est pas la belle histoire d'une entreprise qui a un savoir-faire rare et précieux, et donc elle détache un de ses sachants experts dans un autre pays pour remplir une tâche, etc. Ça, c'est la belle histoire de la thérapie de détachement. La seule histoire, c'est chez des boîtes bidons qui n'ont aucune compétence, qui sont juste des boîtes aux lettres et qui embauchent des types juste pour les détacher dans d'autres pays européens. Mais il faut savoir que la deuxième nationalité de travailleurs détachés en France, c'est des Français. Donc, ça veut dire, et moi j'ai ça à la frontière, avec le Luxembourg par exemple, il y a beaucoup de boîtes d'intérim au Luxembourg qui embauchent des Français qui viennent travailler en France. Et ça, c'est donc la deuxième nationalité. Après, très dominant, il y a les Polonais et il y a les Roumains. Et il y avait aussi l'affaire bretonne, les 750 000 porcs qui allaient se faire découper en Allemagne et qui revenaient en Bretagne, hein, au nom de « On est tous bretons, vive les chapeaux ronds », c'était quand même une histoire de détachement, parce que pour le coup, dans certains secteurs de l'Allemagne, en Allemagne, il n'y avait pas de service, enfin il n'y avait toujours pas, mais ça a été négocié dans la coalition, dans le Rhin, il n'y avait pas de service minimum. Donc évidemment, si vous n'avez pas de service minimum, la directive détachement ne vous imposait pas non plus de vous aligner sur le code et le salaire allemand, mais quand il n'y a pas de salaire minimum, il peut être très très bas, quoi, ce salaire. Et donc, il y avait des entreprises comme ça de découpe de bétail qui fonctionnaient avec des Roumains, je crois, et vraiment pas cher du tout, quoi. D'où aussi l'excitation sur les cotaxes, parce que tous ces bétails là étaient transportés par camion, hein. Donc ce beau système non durable qui utilise le dumping social et environnemental, voilà, et c'est ça qui fait l'agitation bretonne aujourd'hui, quoi. C'est quand même bon, voilà, je m'égare un peu parce que ça va beaucoup exciter cette affaire. mais voilà, pour la peur du détachement. En fait, l'accord qu'il y a eu hier, c'est, ça va faire des progrès, mais ce n'est pas le bout de l'histoire, hein, parce que les vraies avancées concernent seulement le secteur du bâtiment et pas les autres secteurs, mais dans le secteur agricole aussi, il y a beaucoup de personnes détachées. Et puis surtout, nous, ce qu'on propose, c'est que la protection sociale ne soit pas à tout coup celui du pays d'origine, mais ce soit la protection la plus favorable, la clause la plus favorable de protection sociale entre le pays d'accueil, c'est-à-dire qu'en étant détaché, vous ne pouvez pas y perdre. À ce moment-là, une clause comme ça, c'est une clause taquée, elle oblige, si vous voulez, à ce qu'il y ait une harmonisation par le haut des protections sociales des salariés en Europe. Et c'est, enfin, je crois que ça devient clair pour tout le monde que si on ne fait pas d'avancée sur le dumping social et fiscal en Europe, bah, pas d'ailleurs. Là, franchement, je ne sais pas pourquoi. Ça devient une question extrêmement sensible et extrêmement urgente.